le bistrot des ethnologues. Nicolas Adelgombert, professeur d'histoire, géographie et de sciences économiques et sociales, est venu le 2 mars au Baloir nous présenter son ouvrage « Des hommes de devoir ». Il s'agit d'un panorama sur les compagnons du Tour de France, donc voici sa conférence.
Merci pour cette invitation, évidemment, qui m'honore beaucoup. Et puis, bon, c'est vrai qu'on n'a pas tellement l'occasion de parler vraiment de ces travaux entre les cours, les tâches administratives qui nous épuisent, hein, il faut le dire. Donc, je mesure bien le caractère précieux du moment. Donc, je vais vous parler du compagnonnage. Et avant d'en parler en détail, sans doute, il faut que je dise quand même un mot du terme lui-même, parce que c'est un terme qui est très lourd, c'est un terme qui est chargé de beaucoup de significations, et qui traîne avec lui, en fait, toute une série d'expressions dont on a l'impression, au départ, qu'elles sont synonymes, alors qu'en réalité, elles témoignent de sens sensiblement différents. Exemple. De ces expressions, celle de compagnon du devoir. Très souvent, on dit bon voilà le compagnonnage, ce sont les compagnons du devoir, alors qu'en réalité, l'expression compagnon du devoir ne renvoie qu'à certains métiers qui correspondent à l'intérieur de ces métiers, même à certains compagnons. Les compagnons du devoir, ce sont ceux qui se recommandent simplement de quelques fondateurs, de deux fondateurs légendaires. Maître Jacques et le Père Soubise, hein, pour les nommer. Ce sont également des compagnons qui ont un lexique particulier, des rituels particuliers, des façons de vivre le compagnonnage qui sont spécifiques. Mais à côté de ces compagnons du devoir, il y en a d'autres qui forment également le compagnonnage, qui sont par exemple des compagnons du devoir de liberté, qui est en fait un autre devoir, c'est-à-dire une autre façon de vivre le compagnonnage. Il y a également des compagnons des devoirs, au pluriel, c'est-à-dire des compagnons qui ont soit fusionné entre un rituel, celui du devoir, et un autre rituel, celui du devoir de liberté, et puis des compagnons qui se réclament encore d'autres façons de vivre le compagnonnage. Donc, le compagnonnage, c'est vraiment une sorte de mosaïque, hein, de façon de vivre en communauté et de façon de vivre en communauté de métier. Ce qui n'empêche pas que, d'une certaine façon, quand on dit que les compagnons du devoir reflètent le compagnonnage, qu'on n'est pas tout à fait loin non plus de la réalité, puisque ce sont les compagnons les plus nombreux, et surtout, ce sont ceux qui communiquent le mieux et le plus. Donc effectivement, ils ont davantage de visibilité. Bon, tout ça pour introduire finalement au titre et au sous-titre que j'avais adopté à l'origine pour le livre que je vous présente ici. Donc le titre, c'est « Des hommes de devoir » et le sous-titre « Les compagnons du Tour de France », entre le XVIIIe et le XXe siècle. Je commence par le sous-titre, peut-être pour en dire un mot. « Les compagnons du Tour de France », c'est une expression compagnonique. Mieux que ça, c'est une expression dont les compagnons, ou à propos de laquelle les compagnons ont fait très attention à ce qu'elle ne puisse faire l'objet d'aucune appropriation par aucune communauté en particulier. C'est-à-dire, ils ont pris un cadre juridique qui leur permet d'empêcher toute appropriation du terme. Donc les compagnons du Tour de France, c'est l'expression qui sert à désigner le mieux tous les compagnonnages officiellement. C'est donc celle dont je me suis servi dans le sous-titre. Et j'ai adopté comme titre, j'aurais pu adopter le titre « Les compagnons du Tour de France », et j'ai préféré adopter comme titre « Les hommes de devoir ». Évidemment, ce n'est pas du tout « Les compagnons du devoir ». Dans « Les hommes de devoir », l'idée, c'était de rendre compte d'un attachement plus général, de rendre compte également de l'existence de codes spécifiques, de la même manière qu'il y a un sens du devoir, en quelque sorte, des formes de savoir-être, de transmission du savoir également. L'idée, c'était de restituer quelque chose de l'esprit d'une institution, hein, pour reprendre une expression un peu ancienne. Ce qui fait que dans ce titre et dans ce sous-titre adopté, ce qui ressort, c'est deux identités de compagnons. C'est-à-dire, ou plus précisément, deux approches de l'identité de compagnon. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans, dans le travail que j'ai essayé de réaliser. C'est essayer de répondre à une question qui paraît très très simple et qui en réalité est assez compliquée. Qu'est-ce que ça signifie être compagnon ? Ça a l'air simple et quand on essaie d'y répondre, on se rend compte que c'est extrêmement difficile. Deux approches, je disais, de cette identité que reflète ce titre et ce sous-titre. La première approche, ou le premier niveau de l'identité, c'est ce niveau institutionnel, hein, ce niveau de surface qui est celui du compagnon du Tour de France, un niveau qui fait l'objet de discussions, dont on discute les limites, dont on discute les spécificités, un niveau qui se cherche aussi un patrimoine commun. Le Tour de France, voilà, un patrimoine partagé par l'ensemble des compagnonnages, un patrimoine sur un fond de différences importantes, un niveau en quelque sorte où l'identité compagnonique, elle est réfléchie, elle est travaillée, elle est refabriquée hein, à partir de matériaux différents, un niveau également où, où l'idée c'est de servir des enjeux. Vivre en bonne intelligence. S'il y a plusieurs compagnonnages, il faut aussi qu'ils vivent les uns avec les autres. Donc, c'est un enjeu hein, de ce niveau institutionnel. Un autre enjeu, ça peut être mener des projets communs. Ça peut être aussi protéger le compagnonnage. Le protéger contre des usurpateurs. Hein, celui qui se dirait compagnon du Tour de France pour utiliser sur le devant de son échoppe le prestige du nom et puis tout ce qu'on lui sous-entend d'excellence ou de qualité d'un travail. Bon. Donc ce niveau de surface, ce niveau institutionnel. Le niveau des hommes de devoir, c'est de mon point de vue un niveau plus sous-jacent où sous les différences, non plus au-dessus mais dessous, sous les différentes sensibilités donc, ou sous les différentes époques du compagnonnage, il existe à mon sens un principe d'identité, de continuité ou de permanence qu'on peut déceler à partir de pratiques individuelles hein, et qu'on ne peut observer qu'au niveau des individus justement. Et donc, comment retrouver ces pratiques ? Comment restituer donc cette continuité ou cette permanence du compagnonnage ? Alors là, je crois encore une fois qu'il faut poser les bonnes questions. Et on peut se poser de bonnes questions qui sont aussi de vieilles questions, je crois. C'est ce que j'ai fait à propos du compagnonnage. Et je me suis posé la question suivante, qui est une vieille question, celle qu'on se posait déjà dans l'Antiquité, quand on voulait travailler la question de l'identité. Celle qu'on se posait à propos de la question du bateau de Thésée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est, donc, Thésée revient de sa victoire sur le Minotaure. C'est le héros, évidemment, pour Athènes. Il amarre son bateau, il débarque. Et puis les Athéniens, évidemment, ont envie de garder le souvenir de cette victoire, de manifester un culte pour le héros athénien et donc de protéger ou de maintenir ce qui est pour eux le symbole de cette victoire, c'est-à-dire son bateau. Et donc ils entretiennent le bateau, mais évidemment au bout d'un moment le bateau s'abîme, donc il faut remplacer planche par planche, d'abord toute la coque et puis les voiles et puis tous les mâts, ce qui fait qu'après plusieurs années, donc on raconte cette parabole de la Grèce antique, il n'y a plus aucune pièce d'origine sur le bateau. Alors question de la philosophie antique, est-ce qu'on a affaire là au même bateau que celui que Thésée avait emprunté au moment où il est allé vaincre le Minotaure. On peut répondre à cette question de plusieurs façons, soyons simples. On peut dire non. Non, c'est pas le même bateau. Longtemps, quand on a considéré le compagnonnage, on a répondu non à cette question, à traduire donc dans le monde compagnonique, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'il n'y avait ou qu'il ne fallait parler du compagnonnage qu'au pluriel. Il n'y a que des compagnonnages. Des compagnonnages de différentes époques, des compagnonnages de différents métiers, ce qui fait que d'une certaine façon, si on voulait parler du compagnonnage, il fallait traiter les charpentiers du devoir, qui les tailleurs de pierre du devoir de liberté, qui les chaudronniers, bon, etc., 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 déclinée en quelque sorte à l'infini. Cette posture scientifique, parce que c'est une posture scientifique, a conduit en quelque sorte à ne valider que des études très spécifiques qui restituent cette fragmentation, qui soulignent les disparités, qui en même temps soupçonnent ceux qui vont essayer ou qui vont au même moment parler du compagnonnage au singulier, qui vont les soupçonner en quelque sorte de négliger les distinctions, d'une part, de les aplatir, de les réduire et finalement de trahir réellement l'esprit même du compagnonnage. Alors, il faut souligner, je crois d'emblée, que cette fragmentation, comme je l'ai déjà dit, des compagnons, elle est réelle. Elle se signale très bien dans le paysage compagnonique français actuel, pour ne rien dire, des compagnonnages qui existent aujourd'hui en Europe, parce qu'il y en a, on a tendance à l'oublier. On l'oublie parce qu'on les connaît mal, finalement. Il y a des compagnonnages en Allemagne, il y a des compagnonnages au Danemark. Et on manque actuellement, cruellement, d'études véritablement comparatives entre ces compagnonnages de type anglo-saxon et le compagnonnage français. Bon. Restons sur le compagnonnage français, soulignons que le paysage qu'il reflète est tout à fait bigarré. En gros, il y a trois associations, ou trois groupements plutôt, compagnoniques, qui se partagent l'essentiel de ce paysage. Bon, le premier et le principal numériquement, c'est l'association ouvrière des compagnons du devoir, bon, premier groupement, qui est très bien implanté, qui a son réseau particulier de maisons ou d'étapes du Tour de France, qui a sa structure administrative, qui possède également sa hiérarchie interne, sa façon de faire des initiations, d'accueillir, de recevoir des compagnons. Il y a, je classe dans l'ordre numérique, hein, en quelque sorte, pour l'association, c'est quelque chose comme 20 000 individus que ça représente. Compagnons, apprentis, jeunes qui font leur Tour de France, tous pris ensemble. Bon. En dessous, toujours du point de vue numérique, la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment. Bon, elle aussi a son Tour de France particulier, son réseau, ses façons de vivre le compagnonnage. Et enfin, le dernier groupement essentiel aujourd'hui, c'est l'Union compagnonique, qui, elle, en gros, regroupe quelque chose comme un millier de compagnons. Et on peut aller jusqu'à 4000 si on additionne tous ceux qui gravitent autour de l'Union compagnonique. Mais bon, voilà les trois principales associations. À côté de ça, il faut ajouter toute une nébuleuse, en quelque sorte, de corps de métier qui, à un moment donné de leur histoire, ont fait scission avec les compagnons, qui ont décidé de se séparer pour des raisons qui sont très différentes, parfois des désaccords sur la façon de conduire une initiation, parfois des désaccords, je dirais, plus profonds sur sur ce que doit être ou ce que doit devenir le compagnonnage. Faut-il, par exemple, s'ouvrir à des métiers qui ne sont pas des métiers du bâtiment ? Faut-il accepter les femmes ? Faut-il obligatoirement imposer aux jeunes du Tour de France de vivre à l'intérieur d'une maison réservée aux compagnons ou à ceux qui sont dans l'orbite du compagnonnage? Bon, toutes ces questions ont fait débat et ont très souvent conduit à des scissions, donc parfois de l'ensemble de corps de métier, parfois de quelques compagnons qui ont créé leur petit compagnonnage de leur côté. Donc effectivement un paysage tout à fait bigarré. Donc la position non à la question sur le bateau de Thésée se justifie entièrement, c'est même probablement celle du bon sens. Tant les disparités sont évidentes, tant elles sont rappelées même par les compagnons et mises en avant. C'est une position d'ailleurs qui a ses avantages, puisque cela a permis de produire de la monographie, ce qui est tout à fait intéressant, de relever des écarts et de rendre visibles peut-être des nuances. Mais en même temps, cette espèce de superacuité à ce niveau qu'est le corps de métier ou qu'est le groupement compagnonique, a rendu aveugle, je crois, à deux choses. La première, c'est ce niveau des microprocessus qui fonctionne au niveau des individus, où l'on peut essayer, où l'on peut repérer parfois des régularités, des proximités d'intention, d'action, de représentation entre des individus qui appartiennent à des compagnonnages différents. première chose. Et deuxième chose, je crois que cette superacuité, encore une fois, a rendu aveugle à des phénomènes, alors pour le coup plus importants, à des grands phénomènes, qui montrent qu'en réalité, les différences entre compagnonnages ne sont pas des différences aléatoires ou qui sont complètement contingentes, mais qu'elles font système, en réalité, et qu'on peut arriver à trouver ou à désigner ou à représenter quelque chose qui serait une économie de la distinction à l'intérieur de ce système compagnonique. Donc, vous l'avez deviné, évidemment, je suis plutôt un tenant du oui pour l'identité, quant à l'identité plutôt du bateau de Thésée, ce qui se traduit donc pour le compagnonnage par une approche au singulier de ce compagnonnage, sans négliger, je crois, les distinctions ou les différences, mais simplement en n'insistant pas sur cet aspect, en ne s'y arrêtant pas, et en essayant de considérer le compagnonnage davantage comme un type de relation sociale, une façon de conduire sa vie, un rapport particulier au métier, peut-être aussi une certaine économie psychique qui à un moment donné obéit à des règles, ou plutôt qui voit des règles se créer, on verra, au tournant des 18e et 19e siècles. Or, comment arriver, si on part de ce principe-là, à saisir cette unité du compagnonnage, comment arriver à saisir cette continuité? Pour ça, il faut évidemment ne pas rester à un niveau très général d'observation, sinon là, pour le coup, on s'expose aux critiques des tenants de la pluralité. Mais il faut descendre au niveau, encore une fois, de ces pratiques individuelles, des actes singuliers, pour essayer de repérer des régularités. Alors, pas tellement des similitudes, mais plutôt quelque chose comme des familiarités. Voilà ce que j'ai essayé de faire, repérer des airs de famille entre des pratiques, entre des actions qu'ont pu employer des individus qui étaient à l'intérieur de compagnonnage au XVIIIe, au XIXe et puis au XXe siècle. Et c'est tout le sens de l'approche d'anthropologie historique que j'ai essayé d'employer dans l'ouvrage que je vous présente ici. Mais je ne voudrais pas non plus donner complètement l'illusion d'une très grande cohérence initiale du projet que je vous présente, puisque c'est un projet qui a été fait de tâtonnements, de difficultés aussi, d'impasses. Et il est très facile, je crois, au bout d'un moment, de rationaliser ces impasses et ces difficultés en présentant a posteriori la méthodologie exactement adaptée ou appropriée. C'est quelque chose de facile. Non, en réalité, ça se passe, ou pour moi, ça s'est passé de façon tout à fait différente. Bon, d'une part, j'ai une formation d'historien, alors évidemment, j'étais sensible à cette approche historique. Et puis, d'autre part, surtout, j'ai toujours, en quelque sorte, eu beaucoup de difficultés d'accès au terrain lui-même, c'est-à-dire d'accès aux compagnons. Alors, l'histoire m'a permis de prendre ce recul, d'avoir des informations, et je crois qu'il ne faut pas tricher malgré tout. J'ai jamais vécu avec mes artisans sauvages, ou que j'imaginais comme ça, en tout cas à l'origine, ou alors de façon marginale, ou de façon sporadique, en tout cas. J'ai jamais eu cette vie que j'aurais peut-être aimé avoir avec les compagnons. Je connaissais rien aux compagnons, il faut le dire aussi, ni au compagnonnage d'ailleurs. En fait, je connaissais une seule personne qui avait fait un début de parcours chez les compagnons, et puis qui a abandonné juste au moment où moi je commençais à m'y intéresser véritablement. Et c'est vrai que j'avais quand même eu le temps de me faire des illusions. Je m'étais fait l'illusion d'un informateur privilégié. Alors ça, en ethnologie, c'est très important, puis en même temps, c'est très piégeux. C'était la seule personne que je connaissais, je m'étais dit, puisqu'il est dedans, il va pouvoir m'informer de l'intérieur. Et en réalité, il ne m'a rien dit, puisque précisément, il était dedans. Alors ça, c'était compliqué, et puis c'était assez décevant aussi. Et quand il a quitté, après des conflits très importants, son groupe compagnonique, je me suis dit, c'est encore mieux. J'ai un informateur alors, vraiment super privilégié, puisque comme il est parti et qu'en plus, il s'était vraiment brouillé avec les compagnons, je me suis dit, là, je vais pouvoir enfin avoir des informations. Eh bien, non plus. J'ai jamais eu aucune information précise sur le compagnonnage par cette personne-là. Et donc, je me suis retrouvé face à des inconnus. Bon, première difficulté. Deuxième difficulté, sans doute encore plus importante, je me suis retrouvé face à des inconnus qui sont particulièrement entraînés à manœuvrer les curieux. C'est-à-dire hein, les journalistes, les maçonnologues, les ésotéristes naïfs, enfin bon, hein, etc., etc. C'est-à-dire que en réalité, c'est pas tellement que je faisais l'objet d'un rejet radical. Ça, c'était pas tellement ça. C'était pire que ça. C'est qu'on me faisait entrer, mais que je rencontrais que des maîtres du discours, hein, des spécialistes de la communication, du personnel administratif, et ce qui fait que j'avais quelque chose de tout à fait formaté. Et donc, en quelque sorte, de tout à fait inexploitable, pour ce que je voulais en faire en tout cas. Bon, après quelques temps néanmoins, j'ai commencé, j'ai eu le droit de fréquenter des jeunes, mais en groupe, et dans des lieux de passage. Ce qui pose quand même certains problèmes, ou ce qui en tout cas induit ou influence considérablement les réponses qui peuvent être données, et puis également les questions qui sont posées, hein, tout simplement. Donc, voilà, hein, donc un certain nombre de problèmes, et puis, bon, malgré tout, la connaissance du milieu compagnonique commence à être meilleure de mon côté, puis je me fais également connaître, et donc l'atmosphère se détend. Mais jamais complètement. C'est une atmosphère qui s'est jamais complètement détendue. Ce qui fait que quand, au bout d'un moment, les questions que je posais se faisaient soit trop précises, soit trop générales. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais vraiment un mauvais enquêteur. À ce moment-là, on me renvoyait immédiatement à la littérature historique ou sociologique, parce qu'il y en avait une, hein, sur les compagnons. On me disait, par exemple, tu veux savoir ce que c'est que le devoir ? Mais attends, il y a un type super qui a écrit un livre sur... C'est un gars qui a fait une thèse... Voilà le type de réponse que j'avais. Et en même temps, ces réponses-là ne venaient pas seulement du personnel administratif lui-même ou des spécialistes du discours, mais également des jeunes, pour une raison que j'ai découverte par la suite, qui est le fait que les jeunes en compagnonnage ont très souvent, ils savent qu'ils sont dans une société qui pratique le secret, mais en réalité, comme ils sont jeunes et qu'ils découvrent, ils ne savent pas vraiment ce qui doit rester secret, ou ce qui peut être dit, et de quelle façon. Et donc, il y a un moment où ils préfèrent en dire moins, hein, plutôt que de risquer, d'un moment donné, de trahir la communauté. Et donc, finalement, les entretiens avec le jeune ne sont pas les entretiens les plus riches. Pas parce qu'ils n'en savent pas beaucoup, mais parce qu'ils ont peur de trop en dire. Et ça, c'est encore une difficulté de l'accès à ce terrain. Bref, bon, j'étais dans une véritable impasse. Et donc, j'avais cette option que j'ai empruntée, ou cette voie que j'ai empruntée de l'histoire et de l'anthropologie historique, mais qui, d'une certaine façon, était insuffisante, hein, pour le projet que je voulais mener, hein, puisque en construisant une véritable anthropologie historique, j'étais obligé de partir du présent et de faire quelque chose comme une histoire régressive. Et donc, il me fallait partir du présent, et donc il me fallait faire mes preuves vis-à-vis des compagnons. Mais alors, de quelle façon ? Je ne pouvais pas partir sur le Tour de France ? Parce que déjà à l'époque, j'étais hors des clous sur le plan de l'âge, d'une certaine manière. Et puis j'avais des obligations professionnelles qui m'empêchaient de partir aussi. Hein. Donc bon, l'un dans l'autre, je n'étais pas décidé à faire ce Tour de France. Mais je sentais quand même qu'il fallait passer par le métier. Parce que la question de passer par le métier ou d'en être du métier me paraissait décisive. Et donc j'ai choisi d'orienter mon regard vers un corps de métier en particulier, un corps de métier que j'ai pas choisi au hasard, mais j'ai choisi un qui était censé être les plus anciens, puisqu'évidemment en faisant de l'anthropologie historique j'ai besoin d'ancienneté, ou j'ai besoin d'un corps qui soit ou qui ait une forme de légitimité historique. Et donc j'ai choisi celui des charpentiers. Alors chez les charpentiers, qu'est-ce que j'ai fait ? D'abord j'ai suivi leur cours technique, hein, sur le tracé de charpente. J'y comprenais rien. C'était quelque chose qui était absolument qui restait très longtemps du charabia pour moi. Et en même temps, j'ai continué d'assister très longtemps à ces cours, ce qui, d'une certaine façon, me rendait aux yeux des jeunes et des compagnons complètement fous. Et en même temps, très volontaire. Et ça m'a rendu, en quelque sorte, un peu acceptable, d'une certaine façon. Bon, puis à côté de ces cours théoriques, j'ai aussi assisté aux cours d'atelier, hein, cours de pratique, et puis je suis allé aussi beaucoup sur des chantiers de construction où j'ai participé avec ces charpentiers à des élaborations beaucoup plus importantes. Bon, alors il faut dire aussi, hein, dans tous ces domaines, hein, les cours d'atelier et puis les chantiers, j'étais vraiment d'une rare médiocrité, quoi. Ce qui fait que, en même temps, ça m'a rendu tout à fait sympathique, notamment auprès des apprentis, puisqu'ils avaient enfin quelqu'un qui était vraiment moins habile qu'eux sur les chantiers ou dans les cours d'atelier. Et C'est un petit peu comme ces ethnologues des sociétés exotiques là, qui se font d'abord intégrer dans la société des enfants. C'était un petit peu ça, avec cette différence quand même que c'est un niveau que j'ai jamais vraiment dépassé hein, chez ou sur le terrain des compagnons. Bon, ce terrain-là, je l'ai réalisé, essentiellement auprès de l'association et de la fédération, tout simplement parce que le dernier groupement, celui de l'Union, n'a pas mis l'accent, pas autant, hein, sur la formation professionnelle. Évidemment, ça mettait complètement à plat ma stratégie d'entrée ou d'enquête, et donc j'ai essentiellement concentré mes travaux sur la fédération et sur l'association. Et cette entrée par le métier et cette approche m'a fait me rendre compte de plusieurs choses, c'est-à-dire m'a fait revenir à ma question de départ, qu'est-ce qu'être compagnon, et je me suis rendu compte très vite que c'était trois choses qui me paraissaient indissociables. C'est d'une part être un homme de métier, et c'est ce qui saute aux yeux d'abord, hein, quand on est chez les compagnons. La deuxième chose, c'est être également membre d'une communauté particulière, c'est-à-dire être compagnon au sens précis hein, du terme. Et puis la troisième chose, dont je me suis rendu compte quand je travaillais avec les compagnons, c'est qu'être compagnon, c'est être un homme au sens d'être un mâle, être quelqu'un de viril. Bon. Et on va voir comment ces trois niveaux de l'identité, finalement, des compagnons, se sont progressivement associés l'un à l'autre. Alors, comment traiter ça ? C'est évidemment, d'un point de vue ethnologique, on se pose toujours ce type de questions. A priori, on aurait pu avoir l'idée de traiter ça de façon horizontale. C'est-à-dire, j'imagine une identité, sectorielle, divisé comme ça en différents secteurs, avec ici l'homme de métier, le compagnon et puis l'homme viril, hein, en se disant que c'est cette identité qui fonctionne, hein, une espèce d'identité un peu schizophrénique, hein, dont la matrice initiale serait quelque chose comme le partage de la vie privée et de la vie publique, hein, au moment de la fin du XVIIIe siècle. Bon. Et le problème, c'est que ces partages-là, cette identité sectorielle, elle ne résiste pas, ou très peu, à l'observation précise. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a toujours des recoupements entre ces secteurs. Et plus que des recoupements, moi, ce que j'observais, c'était véritablement des empilements de ces niveaux identitaires. C'est-à-dire qu'on a, chez les compagnons, affaire à une véritable identité feuilletée. Hein, on a d'un côté, c'est pas d'un côté justement l'homme de métier, puis un autre côté le compagnon, puis d'un autre côté l'homme viril, c'est tout ça en même temps, à chaque fois et tout le temps. Alors, ça, une fois qu'on a fait ce constat-là, on peut aboutir à deux types de conclusions. Soit, il y a des groupes, comme les compagnons, et alors il faut les décrire, il faut donner leurs caractéristiques, qui proposent une alternative à l'identité sectorielle qui serait cette identité typique de la modernité occidentale, hein, façonnée à la fin du XVIIIe siècle, à partir de ce partage vie privée, vie publique. Bon, première solution. Deuxième solution, soit c'est cette identité précisément de la modernité occidentale qui n'est pas tellement sectorielle, mais qui en réalité est davantage stratifiée et davantage feuilletée et archéologique en puissance si on veut, mais seulement cet aspect de l'identité ne se révèle que dans des conditions très particulières que par exemple les compagnons réunissent. C'est plutôt cette deuxième solution, cette deuxième approche que je vais ici défendre. Alors, comment traduire ces enjeux au niveau du compagnonnage ? Ça veut dire que dans le premier cas, si j'avais adopté la première position, ça veut dire que je considère ou qu'on considère implicitement les compagnons comme des restes, hein, c'est-à-dire comme des survivances, hein, comme des derniers, les derniers à avoir cette identité ancienne qui n'est pas l'identité de la modernité occidentale. Dans le second cas, qui est la perspective que j'adopte, on considère que les compagnons sont plus en phase, finalement, avec la modernité qu'il n'y paraît de prime abord. Hein, et c'est cette idée-là que je voudrais défendre, et je vais la défendre en adoptant de façon un petit peu étrange, hein, l'identité, enfin, ou en adoptant une approche par secteur, parce que je crois que, bon, malgré tout, elle est plus pédagogique, et que, d'une certaine façon, c'est facile aussi de démonter cette mécanique et de montrer pourquoi cette approche, finalement, ne fonctionne pas. Et donc, je vais présenter d'abord le point de vue par l'homme de métier, puis, enfin, par le compagnon, et puis par l'homme viril, en voyant comment ces aspects fonctionnent et s'imbriquent, hein, chez les compagnons. Bon. Partons de l'homme de métier. Et d'abord, quand on parle de l'homme des métiers, je crois qu'il faut dissiper, alors pas vraiment malentendu, mais plutôt complexifier une espèce de banalité qui est que le métier va avec le compagnonnage, en quelque sorte, dit-on, parce que tous les compagnons sont des hommes de métier. Alors le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on a le sentiment d'avoir tout dit ou d'avoir dit quelque chose de tout à fait plat, ce qui est d'une certaine façon vrai, mais parce qu'on n'a pas posé ou parce qu'on ne s'est pas encore posé toutes les questions qu'il faudrait. On devrait se poser également, quand on dit ça, la question de la nature de cette relation. C'est-à-dire, pourquoi, qu'est-ce qui fait que le compagnon va avec l'homme de métier, précisément. Première chose. Et deuxième chose, quelle est l'histoire de cette relation? Alors, je vais systématiquement, moi, me poser cette question de l'histoire parce que je vais soupçonner que tous les phénomènes que j'observe ont une histoire. Et dans de très rares cas, les phénomènes n'ont pas d'histoire, ou dans quasiment aucun cas. On sait par exemple aujourd'hui qu'il y a une histoire de quasiment tout, de la sensibilité, du corps, des sensations, même, bon, enfin, etc. Donc je soupçonne l'histoire de cette relation. Pour déterminer ces points, évidemment, si je veux identifier une histoire, il me faut d'abord faire l'état du présent. Alors, je fais l'état du présent, et je regarde quel est l'état actuel du lien entre l'homme de métier et le compagnon, entre le compagnonnage et le métier, et plusieurs éléments se dégagent, que je liste de façon très simple. Premier élément, aujourd'hui, quand je fais mon observation, je constate l'importance considérable qui est prise dans l'essentiel des compagnonnages par la formation professionnelle. Bon, première chose. Deuxième chose, je constate également chez les compagnons l'importance considérable qui est prise par le discours, par des discours sur la transmission du savoir et du savoir-faire. Avec, dans un cas particulier, celui de l'association ouvrière, un discours qui est allé jusqu'à la création d'un institut de la transmission. C'est quand même pas banal, parce que ça n'existe pas partout, finalement, des instituts de la transmission. Et même très récemment, il y a quelques mois, d'un centre de la mémoire qui est à vocation à transmettre de la mémoire compagnonique. De la mémoire compagnonique et de la mémoire de travail. Bon. Troisième chose, on constate également actuellement chez les compagnons l'exacte correspondance entre la capacité dans le métier et la capacité dans le compagnonnage. C'est-à-dire que pour devenir compagnon, il faut témoigner d'un certain niveau dans son métier. Ce qui montre parfaitement cette association, c'est l'exigence d'une présentation d'un chef-d'œuvre au moment de devenir compagnon. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis enfin, cette association entre compagnonnage et métier, on le voit aussi par la forte présence encore aujourd'hui des spécificités corporatives à l'intérieur des groupements compagnoniques qui sont plus ou moins fortes, hein, selon le type d'association compagnonique. Par exemple, à la fédération compagnonique, les spécificités corporatives sont très importantes parce qu'on est sur un mode fédératif. À l'union compagnonique, elles le sont moins parce qu'on est sur un type davantage fusionnel de rituel. Mais une fois qu'on a fait ce constat, qu'on peut faire à la limite même sans faire de terrain, qu'on peut faire presque en restant sur Internet et en regardant le site, hein, de ces compagnonnages, ce qui est une façon aussi, hein, d'avoir des informations. Mais si on va sur le terrain, on se rend compte qu'il faut décrire les choses de façon plus fine. La question de la formation professionnelle, elle est très importante, certes, mais on constate que tous les compagnonnages, c'est-à-dire en intégrant les dissidents, ceux qui ont fait scission, en parlant aussi de l'union compagnonique, là, le plus petit des trois principaux, ils n'ont pas tellement mis l'accent sur cet aspect de la formation professionnelle. Donc, ça, c'est la première chose. L'importance de la transmission, certes, elle est forte dans quasiment tous les compagnonnages, mais en même temps, l'importance de la transmission, elle n'efface pas totalement la croyance qui existe chez les compagnons en une part intransmissible du savoir et du savoir-faire. C'est-à-dire qu'il y a chez les compagnons, comme très souvent, une culture compagnonique qui est coupée en deux, en quelque sorte, avec d'un côté une part, comment dire, une part cognitive, c'est-à-dire une part du discours, c'est-à-dire voilà l'importance de la transmission, le fait de retransmettre son savoir, voilà quelque chose de tout à fait essentiel chez les compagnons, mais en même temps, cette part cognitive de la culture compagnonique, elle montre en négatif une part davantage affective, de cette culture. Et dans cette part affective, qu'est-ce qu'il y a? Dans ce discours sur la nécessité de la transmission, il y a la peur de la perte des connaissances. Et il y a l'admiration également pour des modes d'acquisition du savoir qui ne relèvent pas de la transmission véritablement, mais qui relèvent davantage de la conquête. C'est-à-dire, je vais voler mon savoir, je vais le chercher, je vais le recevoir en ayant fait un effort particulier qui fait qu'il va être d'un niveau supérieur à celui qu'on me transmet simplement ou à celui qu'on me donne. C'est par exemple le savoir qui s'acquiert pendant l'initiation, hein, où véritablement il y a là quelque chose qui relève d'une conquête, hein, de la part du récipiendaire. Ça, ce sont des choses tout à fait importantes. Et puis enfin, dernier point, la question des chefs-d'œuvre, qui paraît centrale aujourd'hui pour cette association du compagnon et de l'homme de métier. Mais on se rend compte, quand on travaille un petit peu sur l'histoire du compagnonnage, qu'auparavant, les chefs-d'œuvre étaient relativement négligés, facultatifs, voire inexistants. Hein, quand on remonte jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y avait aucune obligation de faire un chef-d'œuvre pour devenir compagnon. Ce qui aujourd'hui paraît très surprenant, y compris pour les compagnons, quand on leur dit ça, ils ont beaucoup de mal à y croire, et effectivement, hein, donc je crois que ça montre tout à fait que cette association de l'homme de métier et du compagnon est quelque chose qui s'est construit tout à fait progressivement. Et cette construction, elle est essentiellement le fait du XIXe siècle. Elle est essentiellement le fait du XIXe siècle parce que c'est seulement au XIXe siècle, à l'époque des grands chantiers compagnoniques, l'un des plus grands chantiers compagnoniques, c'est par exemple la Tour Eiffel, hein, dont le maître d'œuvre était un compagnon, que le compagnonnage va devenir la voie de l'excellence, dans un premier temps. Hein, c'est là qu'on fait aussi les grands chefs-d'œuvre. Et plus tard, à la fin du XIXe siècle, c'est là que le compagnonnage devient la voie de la formation à l'excellence. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que des écoles se mettent en place à l'intérieur des maisons compagnoniques. Et on aboutit de cette façon-là à, en quelque sorte, hein, à l'association à laquelle on assiste aujourd'hui. Et qui a produit cet entremêlement tout à fait important du métier et du compagnonique, et également, je vais le montrer maintenant, de la dimension virile du compagnonnage. Alors je crois qu'il vaut mieux le montrer, plutôt que d'en parler de façon très générale, par deux exemples très précis, à partir du métier qui montre cet entremêlement. Premier exemple, premier cas de figure, une institution ou un usage compagnonique qui est le casse-croûte. Quand on fait une journée d'atelier chez les compagnons, on a, alors à la fédération, mais c'est vrai aussi à l'association, un usage qui veut que, bon, au milieu de la matinée, en tout cas au moment où je faisais mes enquêtes, on s'arrête pour casser une graine à côté de l'atelier. Bon, dans cet usage-là, qui est un usage ancien et auquel les jeunes tiennent beaucoup, qu'a-t-on ou à quoi assiste-t-on véritablement? Que nous dit ce casse-croûte? Première chose, il nous dit des hommes de métier. Il nous dit des hommes de métier, mais pas n'importe lesquels, il nous dit des hommes de métier à l'ancienne. Il nous dit des hommes de métier ancien style. Hein, cet usage du casse-croûte, ça nous renvoie à ce partage de la journée en quatre temps, tel qu'il était fait au moment de l'ancien artisanat ou du travail rural du 19e et encore du début du 20e siècle. Donc, premier signifié du casse-croûte, cet homme de métier, en quelque sorte, à l'ancienne, avec cette façon ancienne de partager le temps de travail. Mais il nous dit également du compagnonique. Quand on fait une observation de ces casse-croûtes et qu'on voit que tous les corps de métier, ceux qui en tout cas sont autour de l'atelier à ce moment-là, se retrouvent pour ce moment-là, pour cette collation, on se rend compte qu'il y a quand même les bonnes corporations, c'est-à-dire en particulier les anciens très souvent en compagnonnage, et les charpentiers par exemple, qui sont réputés, alors évidemment moi j'ai fait mon enquête avec les charpentiers, mais qui sont réputés malgré tout faire les vrais casse-croûtes. Alors, faire les vrais casse-croûtes, et mieux que ça, les charpentiers me disent, sinon on n'est pas là, c'est pas un vrai casse-croûte. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un vrai casse-croûte pour les charpentiers, et puis en même temps, avec le silence qu'il y avait autour, peut-être pour ceux aussi qui participent à ces casse-croûtes. Un vrai casse-croûte, c'est un casse-croûte dans lequel il y a correctement à manger, c'est-à-dire la charcuterie, dans lequel on n'amène pas des jus de fruits, mais du vin rouge. Bon, du camembert, le pain, enfin bon, un truc assez gaillard pour le manger à 10h30, en quelque sorte. Donc, si vous voulez, à partir de ces, on va dire, de cette approche du véritable casse-croûte ou du vrai casse-croûte, il y a des discours qui se greffent là-dessus pour dire quels sont ceux qui sont les vrais en compagnonnage, quels sont ceux qui sont aussi les vrais hommes. Moi, ce que les charpentiers me disaient quand ils parlaient des casse-croûtes que faisaient dans leur coin parfois les serruriers ou les menuisiers ou les ébénistes, c'était de dire oh, c'est des casse-croûtes un peu légers. Les ébénistes, de toute façon, c'est des gens qui sont des largeaux roses. Alors, les largeaux roses, évidemment. Le largeau, c'est le pantalon hein, que porte le charpentier, mais également les gens des métiers du bois, très souvent, hein, qui est de un velours côtelé noir. Voilà. Et alors, le largeau rose, hein, vous avez deviné l'allusion relativement en perte de virilité, hein, en quelque sorte, hein, qui est faite par les charpentiers. Évidemment, tout ça sous le ton de la plaisanterie, mais néanmoins, hein, c'est du discours qui me semble relativement révélateur. Bon, voilà pour cette affaire de casse-croûte. Le deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est la question de l'évaluation du savoir-faire. C'est un truc dont on a l'impression que ça ne concerne que le métier. C'est-à-dire, si je veux évaluer le savoir-faire technique de quelqu'un, c'est quelque chose qui a priori ne relève que de la sphère technique et qui n'appartient qu'à ce niveau spécifique de ou qu'est l'homme de métier. Mais on se rend compte aussi, quand on fait l'observation, qu'il y a également des critères ou des biais proprement compagnoniques pour évaluer le métier. Par exemple, au moment juste avant l'initiation, cette exigence du chef-d'œuvre qui est examinée par les compagnons, certes d'un point de vue technique, mais qui également fait l'objet d'une évaluation de type compagnonique. C'est-à-dire on demande au jeune de parler sur son chef-d'œuvre. Et là, c'est plus tellement de la technique qui rentre en compte, c'est aussi une façon de s'exprimer, de la présentation de soi, un savoir-être hein, qui est demandé. Il y a d'une autre manière, à l'intérieur même de l'initiation, quelque chose qui relève de la technique, qui relève du savoir-faire, et qui, pour les compagnons, en tout cas dans leur discours, est appris seulement, ou est transmis seulement, ou plutôt est conquis seulement, au moment et au cœur même de l'initiation. C'est ce que les charpentiers appellent l'Orient. L'Orient, c'est-à-dire le coup d'œil, hein, le fait de sentir le chantier, hein, le fait de voir ce qui ne va pas, ou au contraire ce qui va bien, la façon qu'on a de s'orienter, justement, dans une opération technique, hein, ou sur un toit, bon, etc. Donc l'Orient, c'est vraiment la contrepartie ou l'envers du savoir-faire qui est vraiment appris dans les manuels, dans les cours, le tracé, bon, c'est l'envers de ça, et en même temps, c'est une part nécessaire pour faire l'homme de métier, et cette part nécessaire, il est tout à fait significatif qu'elle ne soit considérée pouvant se transmettre véritablement se posséder à l'intérieur de l'initiation compagnonique. Ça, c'est tout à fait important. Et enfin, cette évaluation du savoir-faire, ou ce savoir-faire et cette part précisément qu'est l'Orient, elle a dit quelque chose également de la part masculine du compagnonnage, de cette virilité qui est mise en place, puisque l'Orient, c'est tout simplement chez les compagnons le mot qui traduit le mieux la maîtrise de soi. C'est ça. La maîtrise de soi, c'est avoir de l'Orient, c'est être maître de soi, c'est être maître de la pièce qu'on a en face de soi, c'est être maître de son chantier. Bon. Et la maîtrise de soi, on le sait, c'est une valeur traditionnellement masculine. Et ça, je crois que ce sont hein, des niveaux de discours qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui sont parfaitement ajustés les uns par rapport aux autres. Bon. À partir de l'homme de métier, on voit bien comment tout ça s'emboîte. Voyons comment ça marche à partir de l'entrée compagnonique. Hein. Je change de point de vue, je pars du compagnonique et je vais essayer de voir comment tout ça, ça s'est progressivement constitué. Et en même temps, je vais essayer de répondre à ma question de départ qui est cette modernité du compagnonnage. Hein. Comment la situer ? Alors, et pour répondre à ça, je vais partir peut-être d'une question très simple parce que sinon on s'en sortirait pas. Hein. Je m'en sortirai pas, en tout cas. C'est comment devient-on compagnon ? Comment on devient compagnon ? Encore une fois, je parle de la situation actuelle. Il y a un canevas rituel. Ce canevas rituel, il est variable selon les groupes, encore une fois, mais disons qu'il y a un schéma qui ressort et qui est un schéma en trois temps. Il y a d'une part un premier rituel de passage qui s'appelle l'adoption et qui, en gros, pour simplifier les choses, fait partir sur le Tour de France. Et celui qui est adopté devient dès lors un aspirant, donc un aspirant charpentier, un aspirant menuisier, enfin, etc., etc. Et donc, cette adoption donc, initie le temps du Tour de France, et vers la fin de ce temps du Tour de France a lieu la réception qui fait accéder au statut de compagnon, et on devient compagnon reçu. Cette réception, qui a lieu vers la fin du Tour de France, n'annonce pas immédiatement l'arrêt de ce tour, mais disons qu'il faudra, dans les 2 ou 3 années qui suivent, bientôt, s'arrêter et se fixer une fois pour toutes. Et enfin, dernier temps de cette grande initiation compagnonique, c'est le temps de la finition, hein, où là on devient un compagnon fini. Cette finition, elle survient après plusieurs années de services rendus en fait hein, à la société compagnonique. Elle n'est pas obligatoire, c'est-à-dire il y a des compagnons qui ne seront probablement jamais finis, bon, parce que peut-être ils se sont détachés un peu de l'institution, ou en tout cas ils n'ont pas rendu suffisamment leurs devoirs hein, vis-à-vis de leurs compagnons précisément. Bon, à ce canevas rituel, on peut ajouter d'autres cérémonies qui signalent également de la progression initiatique, mais qui sont moins fixées. Par exemple, la remise des joints. Les joints, ce sont ces boucles d'oreilles hein, que les compagnons peuvent porter à l'occasion, mais pour ça, il faut en faire une demande, il faut que la demande soit acceptée. Tous les compagnons ne font pas cette demande, parce que porter les joints, c'est se soumettre en quelque sorte à des exigences tout à fait considérables, c'est être un exemple, c'est avoir rendu des services particulièrement importants et en même temps s'imposer à soi-même d'être un modèle hein, pour le restant de sa vie. Donc c'est tout à fait important. Il y a aussi le fait d'assister à la réception de ce qui a longtemps été la seule figure féminine du compagnonnage et qu'on appelle la mère, qui peut faire partie d'une progression dans l'initiation et dans le savoir initiatique. Bon, ce canevas, il est repéré par tout le monde, c'est-à-dire par tous ceux qui ont travaillé sur le compagnonnage. Depuis longtemps, on sait comment ça fonctionne. Mais qu'est-ce qu'on en a fait, précisément, de ce savoir sur l'initiation? Parfois, rien du tout. Comme ça arrive. C'est-à-dire, les rites sont là, leur contenu, à la limite, importe peu. On sait qu'ils sont variables, on sait qu'ils sont construits, on sait qu'ils sont récents, parfois. Et donc, on s'intéresse seulement à leur fonction. Et quelle est-elle? Faire entrer davantage dans la communauté. Bon. C'est, je crois, rester trop à la surface des choses, hein, évidemment. Parfois, on s'interrogeait davantage sur ce canevas rituel et on a posé des questions qui longtemps sont restées des questions de type, on va dire, intellectualiste hein, ou symboliste, c'est-à-dire quelle est la portée de tel instrument, de telle action, qu'on va essayer de mettre en relation avec... d'autres symboles ou d'autres significations qui sont puisées à des sources diverses, hein, mythologie chrétienne, folklore européen, rituel maçonnique, bon, pour ne rien dire hein, de ce qui est puisé à l'Égypte ancienne, bon, enfin, bon, etc. Alors sans doute on va creuser davantage là, pour le coup, mais dans des strates qui sont pas nécessairement le sous-sol exact des phénomènes qu'on étudie, puisque ça reste très souvent un sous-sol qui est postulé. Alors si parfois il se trouve que ça peut apporter des éclaircissements sur les symboles, et encore pas toujours, ça apporte malheureusement très peu de clarté sur ceux qui manipulent justement ces symboles. Et pour saisir ceux qui manipulent, et moi c'est ça qui m'intéresse, ce sont davantage les compagnons que la symbolique du compagnonnage ou les symboles du compagnonnage, je crois qu'il faut insister davantage sur d'autres choses à l'intérieur de cette initiation, et sur 3 choses en particulier. Il faut insister, je crois, premièrement, sur la dimension sensible de l'initiation. La dimension sensible, c'est-à-dire la dimension matérielle et affective de l'initiation. L'initiation, c'est une scène. C'est une scène sur laquelle il y a, ou à l'intérieur de laquelle il y a des individus qui ont leurs intentions particulières, leurs interprétations, leurs tactiques hein, également. Il y a sans doute un ordre initiatique hein, qui est proposé par des règlements, par des rituels, par des livres hein, qui disent le texte de l'initiation. Mais il y a autre chose qui est la réalisation concrète de cette initiation, avec des gens qui peuvent rire, éventuellement, hein, ils arrivent, bon, voilà, des manquements, des oublis, des performances parfois superbes, hein, et dont on se souvient, te rappelles-tu de l'initiation de telle ou c'était magnifique, enfin, bon, voilà, donc hein, des variations à l'intérieur, et donc il y a cette dimension sensible qui est importante. Il y a aussi la question du sens hein, de l'initiation. Cette question du sens, c'est pas seulement expliciter les symboles en essayant de les faire résonner avec d'autres symboles, c'est restituer le champ véritablement dans lequel ces symboles font signe ou dans lequel ils ont du sens. C'est un champ qui est pas seulement symbolique, c'est un champ qui est psychologique, qui est écologique, qui sait restituer le moment, l'espace, le vécu des individus. Et enfin, dernier moment, encore une fois, l'initiation a une histoire, comme le reste, et c'est sur ça que je vais insister plutôt ici. Alors, je prends ce dernier point tout simplement parce que la plupart du temps, les historiens du compagnonnage, quand ils ont travaillé sur la question, ils ont soupçonné comme les compagnons leur invitaient à le faire, ils ont soupçonné que le rituel, c'était vraiment la chose la plus stable dans le compagnonnage. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui ne bouge pas, c'est vraiment le rite. Alors qu'en réalité, quand on véritablement fait un travail d'enquête historique, on se rend compte que ce rituel, il bouge énormément. Plus on remonte le temps, et plus on constate que ce schéma initiatique, il s'appauvrit considérablement. Au XVIIIe siècle, il y a un seul rite. Celui de la réception. Un seul rite dont la gravité ou dont l'importance semble finalement assez peu développée. Il y a un compagnon à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, un compagnon de Tanner, qui est en province, et puis écrit à sa chambre de Paris, c'est-à-dire aux responsables à Paris, et qui leur dit « Nos rituels ne sont pas assez compliqués ». Ça, je crois que c'est tout à fait important sur cette question de l'initiation chez les compagnons. Donc des rituels qui sont très pauvres, déjà un seul rituel, qui sont visiblement peu complexes, dont on rigole au moment où ils sont accomplis, ce que raconte encore ce compagnon Tanner, qui sont effectués, ou qui est plutôt effectué très tôt dans le parcours compagnonique, c'est-à-dire avant le départ sur le Tour de France. C'est-à-dire que là, le Tour de France n'est pas une période de formation, c'est davantage quelque chose comme une errance organisée. Donc, on est compagnon avant d'être même formé ou d'être sur le Tour de France et d'être formé donc à un métier véritablement. De plus, à la fin du XVIIIe siècle, il existe une autre procédure qui a disparu aujourd'hui, qui est cette procédure qu'on appelle ou qu'on appelait le remerciement. C'est-à-dire ce petit rituel qui était pratiqué avant qu'un individu puisse quitter le compagnonnage. Ça veut dire qu'à ce moment-là, et ça c'est tout à fait étonnant pour les compagnons actuellement, que le compagnonnage était une institution de passage, qui est vocation qu'à n'être traversée par des individus. Je deviens compagnon, quelque temps, et puis au bout d'un moment je remercie l'institution de m'avoir accueilli pendant quelques années, et puis je vais faire ma vie. Cette institution de passage, c'est une institution dans laquelle la vie ordinaire, en quelque sorte, elle était mise entre guillemets. C'est une institution qui permettait de distinguer un âge particulier de ces jeunes artisans, et précisément cet âge, c'était leur jeunesse. Ils étaient en train de devenir des adultes. Et ce devenir adulte, pour certains jeunes artisans, se faisait par le passage, par le compagnonnage. Et ce moment de compagnonnage, c'était l'opposition donc entre ces jeunes compagnons et des sédentaires. C'était l'opposition également entre des compagnons célibataires et des compagnons mariés. Et on avait comme ça des luttes qui se faisaient entre ceux qui étaient du compagnonnage et puis ceux qui étaient les notables artisans installés. Bon, et donc, c'était ça, le compagnonnage, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. La fin du XVIIIe siècle, la Révolution chamboule en quelque sorte l'institution compagnonique. Elle la chamboule de façon évidente et pourtant on ne l'a pas repéré, on ne l'a pas remarqué. La Révolution implique de façon très rapide la suppression des corporations. Donc les corporations sont interdites, tout le monde l'a noté et personne n'a vu les conséquences précises de cette suppression. C'est-à-dire qu'est-ce qui disparaît finalement quand disparaissent les corporations? Ce qui disparaît concrètement, ce sont les ouvriers sédentaires, organisés, qui font corps, qui sont installés, c'est-à-dire tous ceux contre lesquels les compagnons se battaient, d'une part, tous ceux vis-à-vis desquels le fait même d'être compagnon avait un sens. Si le compagnon se signale par sa mobilité, c'est précisément parce qu'il y a des gens ou des ouvriers qui sont fixés et qui sont dans des corps, dans des corporations, précisément, qui représentent ou qui regroupent des ouvriers fixés. Si ces gens-là disparaissent, en quelque sorte, c'est tout cet appui, toute cette référence distinctive qui disparaît en même temps et qui fait perdre au compagnonnage le sens qu'il avait à ce moment-là. Donc ça, je crois que c'est tout à fait important. Première chose. La deuxième chose, c'est que ceux qui disparaissent au moment où disparaissent les corporations, c'est aussi ce que les compagnons s'apprêtaient à devenir. Parce qu'une fois qu'on avait quitté le compagnonnage et qu'on s'était opposé à ces sédentaires, à ces mariés, à ces installés, Ben, c'est pas parce qu'on s'opposait à eux qu'on savait pas que, pertinemment qu'une fois qu'on avait fini son compagnonnage, on allait devenir nous aussi un sédentaire, un installé, un marié, etc. Donc ce qui disparaît, c'est non seulement ces opposants qui nous donnaient une raison d'exister, mais également ce qui disparaît, c'est cet avenir, cette sortie du compagnonnage. Et donc là, il y a deux solutions finalement quand on en est là. Soit le compagnonnage disparaît aussi avec les corporations, puisqu'une institution de passage qui n'a plus de lieu où arriver n'a plus aucune raison d'exister, en quelque sorte. Soit, deuxième solution, le compagnonnage évolue. Il se transforme, et c'est ce qui s'est passé, à mon sens, à ce moment-là, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Alors, comment s'est faite cette évolution ? Elle s'est faite par la conjonction, elle s'est faite de façon lente, déjà. Il s'est fait par la conjonction de plusieurs phénomènes qui se mettent en place progressivement au début du XIXe siècle et qui vont s'affirmer dans le courant de ce XIXe siècle. Première chose, premier phénomène tout à fait important et qui est très visible quand on fait l'histoire du compagnonnage, c'est le canevas rituel qui se développe. Il y avait un seul rite, très vite il y en a trois. Alors au début, ils sont très rapprochés. On va les enchaîner, ces rituels pour un individu. Et puis progressivement, ils vont s'étaler dans le temps, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps de faire une adoption, puis on va laisser passer quelques années, qui vont être les années de Tour de France. Et puis on va faire une réception pour recevoir le compagnon. Et puis on va laisser passer encore des années, de plus en plus, et puis éventuellement faire une finition. Ça veut dire que cet étalement fait que le compagnonnage a cessé complètement à ce moment-là d'être une institution de passage pour devenir une institution à rite de passage. Avec une prise en charge tout à fait importante de la vie des individus qui rentrent en compagnonnage, et avec cette idée que là, le compagnonnage est véritablement une institution moderne. Alors, quand je dis ça comme ça, ça paraît contre-intuitif. C'est-à-dire que les rites de passage, c'est pas moderne. Ce qui est relativement faux. Pour ces institutions telles que le compagnonnage, l'école, l'armée, enfin, toutes ces institutions de formation, qui se mettent en place ou qui se repensent au tournant des 18e et 19e siècles, ce qui les signale comme modernes à ce moment-là, c'est précisément le fait qu'elles mettent en place parallèlement à leur parcours pédagogique, à cette transmission très claire et très transparente, parallèlement, elles mettent en place des rituels d'initiation, d'épizutage, bon, etc. Et donc là, le compagnonnage, il est complètement dans l'air du temps, à ce moment-là, dans ce développement des rituels. Donc, et c'est le signe, c'est cette invention rituelle d'une certaine modernité. Bon, autre chose, ce développement des rituels, cet étalement dans le temps, ça permet aux compagnons de devenir, et ça c'était très important, de devenir en quelque sorte leur propre référence. Je rappelle qu'en étant une institution de passage, ce qui permettait d'avoir du sens, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est être compagnon, c'est être pas comme les autres, pas comme les sédentaires, pas comme les mariés, pas comme ceux qui sont installés, qui ont leur échoppe, etc. Si ces gens-là disparaissent, que devient cette idée de distinction ? Eh bien, tout simplement, les autres, ces extérieurs, ils sont intégrés ou ils rentrent à l'intérieur du système compagnonique. C'est-à-dire qu'avec cet étalement des rituels, ce qu'on développe, ce sont des altérités internes. L'aspirant, il est différent, et il sait qu'il est différent, et ce contre qui il se construit, c'est le compagnon. Hein, c'est sa particularité. Et en même temps, il se construit contre lui, c'est-à-dire qu'il a sa façon de faire, il a son savoir, qui est un petit peu moindre, il a son usage des symboles, et en même temps, il sait qu'il va devenir, ou qu'il voudrait devenir, compagnon. C'est-à-dire que cette différence qui était entre le compagnonnage et les autres, elle est rentrée à l'intérieur du compagnonnage, qui devient de ce fait autoréférentiel. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que ça lui permet de construire ses propres distinctions, ses divisions internes. De la même manière, un personnage qui prend une importance considérable au début du XIXe siècle, c'est une figure qui était complètement hors du compagnonnage. Avant ça, c'est la figure de la mère. La figure de la mère, jusqu'au début du XIXe siècle, c'est-à-dire, si vous voulez, elle est complètement à l'extérieur de l'institution. Elle assume une fonction d'aubergiste, donc elle a un petit contrat avec les compagnons, mais un contrat pour lequel les compagnons la rémunèrent, On lui donne un salaire, on la paye, et puis les relations sont relativement distantes malgré tout. À partir du XIXe siècle, on fait rentrer véritablement la mère dans le système compagnonique. Comment fait-on? On lui réserve un rituel d'initiation. Et ça, c'est faire rentrer, encore une fois, quelqu'un qui était complètement à l'extérieur, à l'intérieur du système. Et là aussi, on va construire, hein, comme ça, de la division interne. On va commencer à penser davantage quelque chose comme le féminin, qui, avant ça, n'était pas du tout dans le système compagnonique et qui, là, commence à rentrer à l'intérieur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est tout le monde compagnonique qui se densifie, qui s'épaissit, à tous les sens du terme. Il y a plus d'individus qu'avant. Le compagnonnage, il n'a jamais été aussi nombreux qu'au début du XIXe siècle et au milieu du XIXe siècle. Donc, plus d'individus. Ces individus, ils sont plus différenciés encore. Beaucoup de divisions internes. Il y a plus d'enjeux, des enjeux de formation professionnelle. Il y a des combats pour la légitimité. C'est-à-dire, il y a ces combats qu'on faisait avant avec les anciens, avec les sédentaires, avec les gens qui étaient installés, mariés. Maintenant, ce sont des combats qui ont lieu entre compagnonnages. Donc, le déplacement des luttes ou des défis. Il y a plus de sens également. C'est-à-dire qu'on invente, par exemple, à ce moment-là, des légendes. On invente des symboles. On crée de la production symbolique. Alors, on crée, c'est-à-dire qu'on la reprend très souvent et on change le sens du symbole par rapport à ce qu'il avait dans l'endroit ou dans l'association dans laquelle on l'a récupéré, très souvent la franc-maçonnerie. Ça, c'est une chose qui fait qu'on assiste comme ça à une espèce d'épaississement général de la société compagnonique. Et je crois que cet épaississement général, cette densification, c'est quelque chose qui est propre, encore une fois, à la modernité, en tout cas à cette modernité du tournant des 18e et 19e siècles. On l'observe dans différents champs de la vie sociale, dans la société bourgeoise, dans l'armée, à l'école. On a comme ça des multiplications de sens, de signification. Bon, ça, c'était le premier phénomène, cette question du rituel. Le deuxième phénomène, ce sera beaucoup plus court, c'est la disparition progressive de ce petit rituel du remerciement. C'est-à-dire que la procédure, elle disparaît, et puis au début, elle diminue, et puis elle disparaît complètement à la fin du XIXe siècle. Ça veut dire que quitter le compagnonnage, finalement, ça ne fait plus partie du cours normal de la vie compagnonique. Par contre, ce qui se développe pendant que le remerciement disparaît, ce sont des rituels de plus en plus compliqués d'exclusion. Ce sont des rituels qu'on appelle des rituels de flétrissure, c'est-à-dire tu es flétri parce que tu as trahi en partie ou parce que tu as révélé des choses importantes. Tu es banni. C'est aussi le moment où on commence à fantasmer chez les compagnons sur les condamnations à mort. Etc., etc. Donc, on ne quitte plus le compagnonnage à bon compte à partir du début et surtout au milieu du XIXe siècle. Et ça, c'est en relation avec le troisième phénomène ici, c'est-à-dire le fait qu'à partir du début du XIXe siècle se développe l'idéal du compagnon à vie, qui n'existait pas du tout auparavant. Le compagnon à vie, c'est une expression qui apparaît dans les années 1820, c'est quelque chose qui va avec des stratégies d'attachement au compagnonnage. Alors l'attachement, c'est d'abord ce qui se passe dans ce canevas des rituels d'initiation, c'est-à-dire dans le premier rituel, l'adoption, on vous donne une moitié de nom. Alors évidemment, on a comme ça un horizon d'attente qui se développe pour avoir la suite au moment de la réception. Et puis au moment de la réception, on est compagnon reçu, mais on sait qu'il y a encore un compagnon fini. Et donc on développe comme ça des horizons d'attente qui sont des stratégies d'attachement des individus. Parallèlement, on invente d'autres rituels comme ça pour attacher les gens, ou les fidéliser, ou pour remercier leur fidélité. On invente à la fin du XIXe siècle, par exemple, quelque chose comme l'anniversaire de la réception d'un compagnon. On fête les 30 ans de compagnonnage de tel individu. C'est 35 ans, c'est 40 ans, c'est 50 ans, bon, etc., etc., etc. Ça, c'était des choses qui n'existaient pas avant la fin du XIXe siècle et qui, à mon sens, reflètent bien cet idéal du compagnon à vie qui rompt complètement avec le compagnonnage comme institution de passage tel qu'il se présentait à la fin ou encore au XVIIIe siècle. Bon, et ce fait de devenir compagnon, complètement chamboulé, entièrement complexifié, s'est appuyé non seulement sur le métier à partir du XIXe siècle, la formation technique, le discours sur l'excellence, la question de la main, c'est-à-dire que autant jusqu'à la fin du 19e siècle, le compagnonnage en gros, quand il parle du métier, ou quand les compagnons parlent du métier, ils insistent assez peu, finalement, sur la manière de le pratiquer. Il n'y a pas d'idéologie, hein, véritablement, du métier. Par contre, à la fin du 19e siècle, au moment où apparaissent, en quelque sorte, hein, le machinisme, où se développe le machinisme industriel à l'intérieur de l'artisanat ancien, il va y avoir chez les compagnons un discours sur la main. C'est-à-dire, le métier compagnonique, c'est un métier qui fait intervenir la main. Mais ça encore, c'est un discours qui n'est pas de toute éternité. Il apparaît qu'à la fin du 19e siècle. Ce qu'ont inventé les compagnons, ou plutôt ce qu'ils ont retrouvé grâce à des historiens du compagnonnage, c'est une maxime d'un philosophe de l'Antiquité qui s'appelait Anaxagore, et cette maxime dit « l'homme pense parce qu'il a une main ». Et alors ça fait un tabac pas possible chez les compagnons, qu'ils se sont dit « mais ça c'est nous ». L'homme pense parce qu'il a une main, voilà le métier compagnonique, voilà véritablement notre philosophie de vie. Bon, personnellement, je crois que les compagnons ont été abusés hein, par leurs propres historiens, parce qu'en réalité, je pense qu'ils font un contresens en adoptant cette maxime, et moi je dirais plutôt l'inverse. L'inverse, c'est que l'homme a une main parce qu'il pense, et c'est ce que dit Aristote, et c'est en réalité ce que font, ou ce que, je crois, pensent les compagnons. Et ce devenir compagnon, je vais finir là-dessus, il s'est aussi beaucoup appuyé, non seulement sur donc l'homme de métier, le fait de pratiquer le métier, mais également sur le fait de devenir un homme, de devenir un homme adulte. Et ça s'est également progressivement construit au cours du 19e siècle. Alors, c'est mon dernier point de vue, le point de vue de la virilité. Par contre, je ne sais pas comment, au niveau du temps, je suis bon. Je finis là ? D'accord. Donc, sur le point de vue de la virilité. Déjà, je crois que j'aimerais juste signaler au départ que le point de vue de la virilité, c'est pas un point de vue qui est exactement identique à celui des autres, ou deux autres points de vue. C'est un point de vue qui est pas équivalent, tout simplement parce que, autant quand je dis que dans le métier, il y a du compagnonique et il y a du viril, ou quand je dis que dans le compagnonique, il y a du métier et il y a du viril, je laisse entendre, et avec, je crois avec raison, qu'il y a du métier ou qu'il y a du compagnon indépendant des deux autres niveaux. Je crois que c'est en quelque sorte vrai, hein, parce que le métier est suffisamment large et le compagnonique s'est suffisamment développé pour avoir justement cette question de l'autoréférence. Et donc ils n'ont pas besoin des autres pour exister. Par contre, le viril, ou la question de la virilité, c'est un niveau qui a toujours besoin d'être porté pour être exprimé. C'est un niveau qui a besoin des autres ou d'autres champs pour être dit ou pour être réalisé. Exemple, c'est le rôle du métier, ici en tout cas chez les compagnons, que de dire ou que d'exprimer de la virilité. Encore un exemple, un geste de travail peut avoir une traduction parfaite hein, dans l'avancée dans l'âge d'homme, hein, dans le fait de devenir un homme véritablement viril, la démonstration de force. Hein, la question de la rapidité, la question de la prise de risque aussi sur les chantiers, et cette place tout à fait importante que prennent dans les parcours biographiques, qu'il soit écrit ou qu'il soit raconté, ces accidents de travail. Ces accidents de travail, de façon quasiment systématique, ils ont une traduction dans sa progression biographique en tant qu'homme ou en tant qu'homme adulte. Hein. Il y a beaucoup de biographies ou d'autobiographies dans lesquelles le compagnon, jeune très souvent, quand il revient d'un chantier et qu'il s'est blessé, le discours qu'on lui fait quand il arrive, c'est « Ah, tu deviens un homme ». C'est pas tu deviens un homme de métier, c'est pas tu as manqué dans ton travail, c'est tu deviens un homme. Et ça, je crois que c'est tout à fait important. C'est aussi le rôle d'ailleurs du parcours compagnonique hein, que de porter cette virilité ou que de porter ce passage à l'âge adulte, un rituel ou un temps compagnonique peuvent avoir une traduction aussi dans la vie d'homme. C'est par exemple le temps du Tour de France, qui est le temps des conquêtes aussi. C'est le rituel de la réception, qui marque le début d'une, ou qui invite à une stabilité qu'il faut rechercher, à la fois sur le plan spatial, se fixer, devenir un sédentaire, mais également sur le plan professionnel, s'installer, hein, avoir soit sa propre entreprise, soit s'installer avec une entreprise qu'on a connue, et également sur le plan amoureux, hein, se mettre en couple. Et il est frappant de constater avec quelle régularité ces trois phénomènes de fixation se font ensemble, presque, dans les 2 ou 3 années qui suivent le rituel de réception. J'étais absolument frappé par cette récurrence, et elle est véritablement, elle est réelle, et elle est d'autant plus réelle que chez les compagnons, il y a un terme qui traduit les trois opérations en même temps, et qui est le mot « s'établir ». Hein, quand les compagnons parlent du fait de s'établir, ça signifie les trois choses à la fois. Et c'est précisément sur cette dernière relation, sur cette relation aux femmes, hein, sur le fait de se mettre en couple, et sur les femmes d'une façon plus générale, hein, que je voudrais ici terminer, parce que je crois que c'est en entrant par les femmes, ou par les discours sur les femmes, ou par les représentations féminines chez les compagnons, qu'on comprend véritablement le poids du masculin à l'intérieur de ce type d'institution. Bon, reprenons le parcours historique, qui sera beaucoup plus court. Quand le compagnonnage était une institution de passage, hein, au XVIIIe siècle, et qu'il s'agissait donc de faire passer un âge, hein, de faire passer la jeunesse, hein, il faut que la jeunesse se passe, et chez les compagnons, elle se faisait même précisément avec les compagnons, je crois que la question du genre se pose peu, voire se pose pas du tout. L'opposition qui était structurante, qui était la plus importante, c'était pas l'opposition entre le féminin et le masculin, c'était l'opposition entre les aînés et les cadets, hein, ou entre les jeunes et les vieux, hein, si on veut. Par contre, lorsque cette division par âge, ou lorsque cette opposition entre les aînés et les cadets devient interne au compagnonnage, ça veut dire que l'âge ne devient plus la distinction sensible, hein, ou l'outil distinctif sensible des compagnons, et c'est le rôle qui va désormais être attribué au genre, c'est-à-dire au féminin et au masculin, hein, parallèlement à d'autres dimensions, comme le rapport au travail ou le souci de l'excellence. Ça veut dire qu'on avait longtemps insisté sur le fait que les compagnons étaient des jeunes, au XVIIIe siècle, et on va désormais découvrir ou insister sur le fait que ce sont des hommes. Et ça se traduit davantage, je crois, par le traitement qui, précisément, va être réservé aux femmes. Alors, avant qu'ils ne soient des hommes, donc justement, ces compagnons, en gros, ne s'occupent absolument pas des femmes. Alors, je veux dire, pour être tout à fait précis, qu'ils ne s'en occupent pas en tant que compagnons. Ça veut dire qu'elle n'existe pas dans les discours compagnoniques. C'est ce que je vous disais à propos de la mère. Bien sûr, il existe une mère, c'est-à-dire une personne qui gère le quotidien des compagnons, qui les héberge, qui les restaure, hein, qui les protège, le cas échéant. Mais cette mère est sous contrat. Elle est parfois, et très longtemps, elle était associée à un père, c'est-à-dire c'est un couple de personnes. Et je crois qu'il ne faut pas trop filer la métaphore familiale, beaucoup en tout cas, hein, au XVIIIe siècle. Tout simplement parce que le père et la mère, ce sont ces termes d'adresse anciens, hein, de la même façon qu'on disait, hein, qu'on s'adressait à la mère Courage, ou au père Fouettard, hein, ou à la mère Poulard, etc. etc. Hein, et donc, je crois que ces termes-là doivent être pris simplement pour ces anciens termes d'adresse qui disent une forme de relation sociale, un contrat, une protection. Par contre, à partir du XIXe siècle, la mère entre dans le système compagnonique et elle devient quelqu'un qui est initiée, d'une part, et quelqu'un dont on va découvrir qu'elle a un genre qui est particulier, qui est ce genre féminin. Et on ne va pas passer du tout sous silence cette question du genre, on va s'en servir pour montrer, au contraire ou en négatif, que les compagnons, eux, sont d'un autre type ou sont d'une autre trempe. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est pas compliqué. On va former, on va façonner l'initiation de la mère exactement sur l'initiation du compagnon. Simplement, dans ce mimétisme, on va faire des petits décrochages, des petits écarts, des petits décalages qui vont bien montrer que l'initiation de la mère, c'est quand même quelque chose qui n'a rien à voir avec la véritable initiation. Le vrai initié, c'est le compagnon, hein, et c'est l'homme, quoi. Voilà. Ces écarts, c'est quoi? Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un symbole qui est un petit peu différent. Ça peut être aussi le temps du rituel. Par exemple, dans les rituels d'initiation des compagnons qui avaient lieu ou dont on insistait sur le fait qu'ils devaient avoir lieu à minuit pile, c'est-à-dire au cœur de la nuit, hein, l'initiation, la réception du compagnon doit avoir lieu parce que le compagnon doit être ébloui par la lumière qui va lui être apportée. Bon, enfin, voilà les discours. Pour la mère, dans ces cas-là, on insiste sur le fait que son initiation doit se passer au moment où le jour commence à tomber, dit-on. C'est-à-dire que tout à la fois on est imprécis, Et en même temps, on veille à ce que l'éblouissement de la mer ne soit pas un éblouissement, mais il faut qu'elle soit à peine éclairée. Hein, évidemment, on est moins éclairé quand il ne fait pas tout à fait nuit et que la lumière vous tombe dessus. Et donc, ce sont des petites stratégies, hein, comme ça, qui sont développées pour bien signaler ces différences ou ces écarts entre la grande initiation qui est l'initiation du compagnon et puis l'initiation de la mer. Et je crois que là, on met en jeu, on met bien en scène cette différence entre le masculin qui est du compagnonique et le féminin qui peut être à l'intérieur, mais qui est autre chose. Significativement, je crois, et ça c'est très important, les corps de métier qui ont beaucoup insisté sur la personne de la mer, les charpentiers, mais aussi les boulangers, bon, il y en a d'autres, ce sont, comme par hasard, ceux qui sont aujourd'hui encore les plus réticents quant à l'entrée des femmes dans le compagnonnage. Hein, c'est pas, donc, et ça, c'est tout à fait important, quoi. C'est-à-dire que l'entrée de la mère, c'est pas tellement l'entrée du féminin comme l'égal des compagnons, c'est l'entrée du féminin comme l'outil de distinction par rapport à ce que doit être un compagnon. Et ça, je crois que c'est vraiment tout à fait important. De la même manière, c'est au XIXe siècle et à la fin du XIXe siècle seulement qu'on commence à s'intéresser chez les compagnons, aux épouses des compagnons, qui existaient déjà, bien sûr, avant, mais c'est seulement à la fin du XIXe siècle qu'on s'intéresse à elles. Comment ? C'est seulement à ce moment-là qu'on les invite, déjà, au banquet des compagnons, au moment des fêtes patronales, c'est-à-dire quand on va fêter le saint patron de la corporation, ben, on commence seulement à la fin du XIXe siècle à inviter les épouses. Bon. On commence également, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, à s'intéresser à ce qu'elles pensent, c'est-à-dire que pensent les femmes de leurs compagnons de mari. Et on continue de le faire aujourd'hui. Il y a des enquêtes qui sont menées sur bon, que pensent nos épouses, que font-elles en tant qu'épouse de compagnon. Ce qui fait que c'est à ce moment-là, hein, que vraiment on se rend compte qu'être un compagnon et être un homme marié, ça fait vraiment partie d'un même ensemble qui est véritablement l'homme de devoir. Et donc on imagine toute la difficulté, hein, que les compagnons ont dû éprouver au milieu des années 70 face à l'air du temps, qui était un air du temps qui était à la mixité. C'est-à-dire, comment faire ? Parce que précisément dans les années 70, les compagnons, eux, ils avaient traité déjà de la question des femmes, mais ils en avaient traité pour aboutir à la conclusion suivante, c'est que le compagnonique et le viril, ça marche ensemble et ça ne peut marcher qu'ensemble. Alors c'est sûr que se retrouver avec l'obligation d'avoir à penser autrement cette question des femmes était quelque chose de tout à fait compliqué. Et très souvent, je crois qu'on a mal interprété leur réticence. On a vu ça comme de la ringardise, comme de la réaction ou de la misogynie. Et en réalité, je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué parce que bon, tout simplement, ce travail ou ce traitement réservé aux femmes, il faut pas le voir vraiment comme le fait que les compagnons refusent absolument le féminin au sein de leur institution, mais il faut le voir davantage, hein, je crois, comme la persistance, hein, d'une coutume ou d'une façon de vivre le compagnonnage. Notons néanmoins que, évidemment, les compagnons sont des individus qui peuvent avoir des avis tout à fait différents, et que dès les années 70, par exemple, un petit groupe de compagnons s'est séparé du reste des autres institutions, précisément parce qu'il était pour la mixité, et que encore aujourd'hui il existe un compagnonnage des compagnons dits égalitaires, hein, qui arbore ou qui présente un compagnonnage mixte. Je signale également, c'est parce que c'est très récent, hein, que dans les années 2000, hein, le principal groupement du compagnonnage, hein, numériquement, l'association ouvrière, a commencé, hein, de faire entrer des femmes sur le Tour de France, c'est-à-dire qui ont été adoptés, hein, qui ont commencé à circuler, et que la première femme qui a pu être initiée comme compagnon l'a été en 2006, donc toujours dans le cadre de l'association ouvrière. Et alors il y a eu beaucoup de débats, et alors c'est très intéressant, sur la question du nom. Comment est-ce qu'on les appelle ? Est-ce qu'il faut dire des compagnons, des compagnonnes ? Alors, au début, hein, au tout début vraiment, au moment de l'initiation, parce qu'on n'avait pas encore tranché cette question, hein, c'était pas fini, on avait dit les compagnons. Et puis alors aujourd'hui, visiblement, hein, on est l'idée ou la mode serait davantage de parler de compagnons, parce que, dit l'association, en tout cas le personnel de l'association ouvrière qui dirige explique que non, il n'y a qu'un compagnon, que les femmes qui sont initiées le sont comme les hommes et que donc elles doivent avoir le titre de compagnon, point final. Les compagnons, ça mettait encore trop de distinctions à l'intérieur du groupe tel qu'il était imaginé au départ. Et je termine encore une fois sur cette... Je te vois, Geneviève, je termine donc sur cette question des femmes, simplement pour dire que ce qu'on avait imaginé au départ, quand les femmes ont été acceptées par l'association ouvrière pour être initiées, on s'était imaginé, tout ça je dois dire, qu'elles allaient rentrer dans des métiers qui étaient plutôt des métiers récents, et qui allait finalement épouser les anciennes distinctions entre vieux métiers du compagnonnage et les nouveaux métiers du compagnonnage. On pensait par exemple à l'association qu'elles allaient rentrer dans la tapisserie, dans la maroquinerie, pourquoi pas dans l'ébénisterie, des métiers plutôt récents. Et on s'aperçut que s'il y a un endroit dans lequel elles sont vraiment rentrées en masse, les femmes chez les compagnons, c'est chez les tailleurs de pierre. Et alors là, ça a séché tout le monde. Ça a séché tout le monde parce que... Bon, alors la première femme initiée est une tailleur de pierre. On s'est dit, mais c'est tout à fait étonnant. Voilà un métier pourtant réputé masculin, un ancien vieux métier du compagnonnage, et pourtant c'est là, essentiellement, que les femmes, alors pas uniquement, mais beaucoup, vont être intégrées et vont être initiées. Et alors, ça a été très étonnant, et en même temps, ça a eu un effet boomerang. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des discours sur les tailleurs de pierre qui n'existaient pas auparavant, qui est que, on va dire que les tailleurs de pierre aujourd'hui sont, ils sont des artistes. On va insister sur leur sensibilité. Il y a la sensibilité du tailleur de pierre. Aujourd'hui, si les tailleurs de pierre, finalement, ce sont eux qui accueillent l'essentiel des femmes en compagnonnage, c'est parce qu'ils ont ce tempérament qui n'est pas celui des autres compagnons. C'est très intéressant de voir ce discours en retour qui explique l'arrivée des femmes chez les tailleurs de pierre. Mais alors, par contre, on manque de considérablement ou cruellement d'une ethnographie. Et donc, c'est une nouvelle anthropologie qu'il faudra faire aujourd'hui pour travailler sur cette question des femmes. Je vous remercie.
C'était le bistrot des ethnologues. Prochaine conférence du bistrot, le 6 avril 2010, au Valoir, où l'Arcé recevra Sébastien Fournier et Martin de la Sourdière, qui viendront nous parler des lignes secondaires. Le bistrot des ethnologues, une prise de son et un montage présenté par Pascal Rullier pour Divergence FM.